bienvenue dans ce nouvel épisode 37 du Broclash, le podcast des bros qui se clashent. Oui, nous ne sommes pas morts, pas encore en tout cas. Voilà, un nouvel épisode, pourquoi ? Eh bien parce qu'on a trouvé des choses à vous raconter, donc du coup...
On n'était pas d'accord en plus.
Oui, on n'est absolument pas d'accord, voilà. Ou presque. Vous verrez bien, vous connaissez la formule, je suis Arnaud.
Et je suis Laurent.
On va structurer l'émission exactement comme d'habitude, avec d'abord chacun un coup de cœur, et après on attaquera le débat du jour qui est franchit ou franchit pas la franchise, franchit-elle le pas ?
Voilà, à travers une super franchise récente qui s'appelle John Wick.
Voilà, je suis désolé, ce titre me plaît beaucoup trop.
Ah bon, on va regarder, c'est bien.
Du coup, on va donc parler de John Wick, l'intégralité des 4 films.
Un peu de ce qu'il y a autour et puis de la franchise en général aujourd'hui dans le monde du cinéma mondial, on va dire.
Exactement.
Mais avant, on va passer au coup de cœur et donc on commence par toi. C'est quoi ton coup de cœur ce coup-ci ?
Mon coup de gueule, c'est la série, la série qui s'adapte du problème à trois corps.
Ah, j'ai pas vu encore.
Alors, sans le spoiler, j'ai un vrai souci avec... j'ai bien aimé le bouquin, la trilogie des bouquins d'ailleurs. L'adaptation fait des raccourcis que je suis pas fan.
C'est des livres récents ?
Oui, de 2000. Entre 2019 et 2022, je crois, les trois.
Oh la vache, j'ai Netflix, ça a mis ça dans les tuyaux. Hein.
De toute façon, alors déjà, c'était un auteur chinois, il y avait déjà une adaptation chinoise et une adaptation autre encore, je crois, intermédiaire. Je vais pas trop m'avancer. Voilà, pourquoi j'aime pas ça ? Alors, ça m'emmerde de dire que j'aime pas cette série, de donner un coup de gueule, parce que, pour une fois, on a de la vraie hard SF à l'écran, et c'est bien. Ce que j'aime pas, c'est qu'ils ont préféré, il y a un traitement qui est horriblement... ils ont fait des choix de scénaristique et de raccourcis par rapport au roman que je trouve bêtes, inutiles et qui ne servent à rien. La série démarre pourtant extrêmement fort, visuellement est très très intéressante, et finit par devenir clapoter doucement le long de la fin de tous les épisodes pour finalement perdre beaucoup de l'énergie, de la profondeur et de la puissance qu'avait le premier roman. Je trouve ça très dommage de ne pas avoir simplement cherché à respecter la dynamique de l'œuvre, et surtout la question du temps dans l'œuvre et des origines de différents personnages. Là, on se retrouve quand même un peu avec l'effet c'est les quatre copains qui vont sauver le monde, et j'ai un peu de mal avec cette idée, alors que c'était pas le cas dans le roman d'origine. Ça m'agace, honnêtement.
Ça fait un peu 90, en fait, finalement.
Ça fait surtout que tu te demandes pourquoi ils font ça. Pourquoi ils n'ont pas capable de raconter correctement, du coup, l'histoire des personnages, de finalement conserver cette gestion narrative du roman. Ça avait un sens au final, parce que du coup la rencontre entre les personnages générait dans le roman des séquences intéressantes, une dynamique intéressante. Là au final
Tu t'es ennuyé en fait, un peu.
J'ai pas retrouvé de rythme que j'aurais aimé, mais bon, après c'est sais que globalement tout le monde a l'air de l'aimer, mais c'est vrai que j'ai quand même un peu beaucoup de mal avec.
Il y a eu pas mal de SF ces derniers temps.
Alors ça, c'est la bonne nouvelle, ouais.
Alors, divers et variés. Fondation a été sur Apple TV. Il y a eu Rebel Moon, le diptyque de Snyder. Il y a eu... Enfin voilà, c'est aujourd'hui. Netflix met des sous là-dedans. Alors Netflix met des sous dans à peu près n'importe quoi. Donc,
Oui, alors ça, c'est pas faux non plus.
Et même Prime a fait... Alors Prime est plus parti sur... ils avaient fait La Roue du Temps, qui était de l'humidial fantastique. Il y a eu... je suis même plus. HBO a produit House of the Dragon, la préquelle de.
Amazon avait.
La préquelle de Game of Thrones. Je ne sais même pas si c'est l'autre qui l'a écrit d'ailleurs. Je n'ai pas bien suivi.
Oui, je ne sais pas.
Mais donc voilà. Donc effectivement, maintenant, le côté. Voir de la SF, ça surprend moins. Après, du coup. voilà. C'est même. Est-ce qu'on peut classer d'ailleurs le dernier film qui a été très oscarisé, qui était au titre imprononçable, est-ce que c'était classé comme de la SF ?
Quoi ?
Le film avec les mondes parallèles.
Ah.
All
I want.
Everywhere, tout ça. Ouais. Voilà.
Ah, c'est une bonne question. Est-ce que c'est de l'SF? J'aurais plutôt dit du fantastique, mais...
C'est devenu maintenant quand même quelque chose de beaucoup plus accepté. Alors après, bon, c'est long. Alors le seul avantage, c'est que maintenant, comme il y a tellement de séries, c'est devenu plus court. Parce que le problème à trois corps, c'est pas très long, je crois.
C'est 8 épisodes.
Si t'arrives à t'ennuyer en 8 épisodes, quand même, c'est que les mecs, ils savent vraiment pas faire. Hein.
Bah, le vrai truc du problème à trois corps, celui-là, c'est que j'avais lu le bouquin, et c'est vrai que... Et surtout, j'ai beaucoup de mal à comprendre la gestion de l'histoire et de ce qu'ils en ont fait. J'ai vraiment l'impression d'un faux rythme. Et ça me chiffonne. Et c'est très étrange. Et en plus, les raccourcis... pas les raccourcis, certains choix me plaisent pas. Me plaisent vraiment pas, quoi.
C'est marrant que c'est un roman chinois, par contre. C'est...
Oui, oui, c'était vraiment ce truc à popper et sorti un peu de nulle part. Ça s'articule autour de trois romans. Mais c'est, voilà. C'est pour ça que ça me chiffonne. Ça me chiffonne d'autant que Netflix avait réussi ces derniers temps, à part l'adaptation live de Cowboy Bebop, à faire des trucs assez intéressants. Sa série de... Son anthologie Love, Death and Robot ou Arcane de League of Legends, c'était finalement très réussi. Typiquement, Arcane m'avait vraiment cueilli. J'en avais parlé, d'ailleurs, c'était un des coups de cœur de ces derniers temps. Et c'est vrai que du coup, j'en attendais pas mal, peut-être trop. Et c'est peut-être pour ça que du coup, j'ai un vrai facteur déceptif là pour le coup. C'est dommage. Voilà, c'est dommage.
Ok. Bon, visiblement, ça a brouillé un peu. Ça a fait la brouille entre la Chine et les États-Unis. Bon, il n'y a pas besoin de ça, à mon avis.
Non, il n'y a pas besoin de ça. Ils trouvent toujours ce qu'ils veulent pour ça. Problème.
Okay.
Et du coup, c'est quoi donc ton coup de cœur à toi ?
Alors mon coup de cœur, c'est pas très original parce que voilà, mon cœur tourne autour de François Terrel, le fossoyeur de films, qui est beaucoup moins actif aujourd'hui en matière de vidéos, mais qui a sorti deux longues vidéos, enfin une vidéo en deux parties, avec un vidéaste qui s'appelle La Séance de Marty, qui s'appelle Cinéma c'était mieux avant avec La Séance de Marty. Alors La Séance de Marty, c'est un vidéaste que moi je connaissais pas avant. Dont on voit pas la tête, un peu à l'inverse de François. Alors François Terrel, on le voit quand on l'entend beaucoup plus en voix off. Il avait fait déjà il y a 6 ans une vidéo qui s'appelait Le cinéma c'était mieux avant. Et là, ils ont refait tous les deux il y a un mois une vidéo en deux parties. Alors la première fait 1h, je sais pas combien, la deuxième fait 1h48. Donc on est sur des gros morceaux, quoi. Et ils creusent tout l'intérêt de se demander pourquoi le cinéma, alors qu'on va dire plutôt le cinéma quand même grand public, est-ce que c'était mieux avant ? Voilà, alors l'éternelle question, mais il y a vraiment, je trouve, là, ils prennent le temps d'analyser plein de choses, et du coup c'est vraiment intéressant. Alors je trouve que la qualité des analyses de François Terrel est plus en plus à démontrer, mais du coup vraiment en prenant le temps, en évoquant tout, voilà, évidemment on va parler d'Avatar, on va parler 3D, on va parler Marvel, on va parler tout ce qui pose problème en fait dans le cinéma, où tout le monde dit que le cinéma est mort, et ça fait un certain temps que François Terrel travaille sur le côté, qu'est-ce que le cinéma ? Est-ce que c'est le média ? Il revient sur le mot contenu, il revient sur... on parle de Netflix à l'instant. Ça pose toutes ces questions-là. Et donc, vraiment, je trouve que c'est rare de voir une réflexion si longue. Alors, on annonce déjà que YouTube, c'est fini et tout. Mais je trouve que quand YouTube fait des documentaires d'1h48, en fait, c'est vraiment intéressant. Enfin, voilà, il prend le temps.
Pas YouTube, quand des créateurs de contenu.
Quand des créateurs laissent comme ça, c'est vraiment intéressant. Et là, alors, c'est... c'est très, ils s'amusent bien parce qu'ils s'interrompent tous les deux. Enfin voilà, il y a un jeu de mise en scène qui est très agréable en plus. Mais vraiment, tu sens le truc documenté. Voilà, on est sur des niveaux des Monsieur Bobine, des trucs comme ça où vraiment on est sur des mecs qui vont dans l'analyse forte sur ce cinéma-là et c'est vraiment intéressant. En plus, il y a eu un mois entre les deux, il y a eu 2-3 mois entre les deux parties. Et du coup, il vient un peu sur les réactions qu'il a eues sur la première partie. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Sans vous spoiler, parce que regardez, mais se poser la question en disant est-ce que c'est Cameron et Avatar le futur du cinéma, bah oui et non en fait, parce que c'est à la fois le cinéma du futur et à la fois on n'a jamais vu un cinéma aussi classique que ça, quoi. Donc c'est toute cette dichotomie là qui met en lumière et tout ce qui. Et alors rassurez-vous, ça fait un certain nombre d'années qu'on annonce la mort du cinéma à chaque nouveau tournant. Par contre, il explique que là, on est vraiment dans un tournant particulier, le streaming, il y a plein de choses qui fait qu'il y a vraiment un tournant pour le cinéma aujourd'hui. Donc voilà, le cinéma, c'était mieux avant, partie 1, partie 2 du Fossoyeur de films, featuring la séance de Marty.
Et bah du coup, on y va ?
Et on y va pour le clash.
Ce podcast est susceptible de contenir des spoilers sur l'objet présenté. J'ai tout perdu. Ce chien était le dernier cadeau de ma femme.
Jonathan, tu avais réussi à sortir de ce milieu. Mais si tu y replonges, ne serait-ce qu'un orteil, tu risques de ne plus jamais en refaire surface. C'est une affaire personnelle.
Où t'as eu cette caisse?
Qu'est-ce que ça peut foutre?
C'est pas ce que t'as fait le problème, fiston. C'est à qui tu l'as fait.
Ce minable.
Ce minable. Et John Wick.
T'as repris le boulot?
Non, je règle juste deux ou trois trucs.
Rassemble tes hommes.
Combien?
Tout ce que tu peux avoir.
Salut, John. Je me suis permis d'entrer.
Les gens n'arrêtent pas de me demander si je suis de retour. Oui, je crois bien que je suis de retour.
Je n'ai pas peur de John Wick.
Votre pressing est bon?
Même eux n'y pourront rien.
C'est ce que je pensais.
Et du coup, la question à se poser, c'est a-t-on encore besoin de franchises, voire de nouvelles franchises? Est-ce qu'on est d'accord? La question est simple. Et on a trouvé rien de mieux que d'utiliser John Wick et ses quatre films pour parler de ça, car déjà, on va parler de John Wick, qui est donc une franchise de films qui démarre, alors que je ne dise pas de bêtises,
en 2014.
En 2014, qui comporte actuellement quatre films. Il y en aurait un cinquième, mais c'est très flou si c'est un John Wick 5 ou Ballerina. Donc, on va s'arrêter là parce que de toute façon, le 4 conclut certaines choses.
Oui.
On a un film John Wick en 2014, chapitre 2 en 2017, chapitre 3 Parabellum en 2019 et chapitre 4 2023.
Je trouve qu'il y a des espaces entre chaque. C'est important à noter parce qu'on a déjà vu des franchises plus.
Mais il y a une bonne rythmique. Voilà. Une bonne rythmique, quand même.
Ce qui est marrant, c'est que c'est un. Wikipédia nous dit que c'est un script. C'est une idée part par un scénariste qui s'appelle Derek Kolstad. Qui développe son petit truc à lui-même, très influencé. Alors, évidemment, on va parler beaucoup néo-noir. Bon, les influences, elles se voient, c'est pas une nouveauté. Qui a inventé ça. Et en fait, pour l'instant, c'est pas. Ça a été des scénarios qui étaient repérés, mais personne ne savait pas trop quoi en faire. Voilà. Et il a fallu, à mon avis, que Keanu Reeves arrive dessus. Je pense à une époque où Keanu Reeves n'était pas au top. Parce qu'il a eu ses périodes de montée et de creux, Kenu. Et en fait, à partir du moment où lui et son copain, dont on va beaucoup parler, Chad Stahelski, prennent le truc en main, ça change tout à fait de forme.
Oui. Alors, l'anecdote raconte que c'est Kenu Reeves qui aurait vu le scénario ou le script qui leur aurait dit « mais c'est vachement sympa » et qui, depuis longtemps, voulait refaire un film avec Chad, alors que j'ai vu Stahelski, du coup, avec lequel il avait coordonné une partie, très grosse partie des cascades de Matrix.
Bah c'est même Chad Stahelski était la doublure visuelle
de Keanu Reeves.
De Keanu Reeves. Alors pour l'anecdote, quand même, comme quoi, quand on lit sa fiche, c'est marrant, il a doublé Eric Draven dans Brandon Lee dans The Crow.
Oui.
Après le décès de Brandon Lee.
Oui.
Voilà. Il apparaît dans Constantine.
Oh.
Voilà. Dans un démon, a priori. Dans V pour Vendetta. Et dans, voilà. Mais en tant qu'acteur, voilà. Mais sinon, effectivement, c'était un cascadeur.
Et du coup, il a été mis aussi en. Il est aussi crédité comme coordinateur des cascades sur le premier John Wick et sur tous les autres, d'ailleurs. Et il y a un côté. Il y a quand même un côté, surtout sur le premier, une espèce de bande démo incroyable de cascadeurs, quand même.
Oui.
Et qui rend le film d'ailleurs totalement jouissif. Renvoie aux grandes époques du cinéma de Hong Kong, mais on en avait.
Ouais, clairement, on est sur un budget de 20 millions, ce qui à l'époque est.
Court. Et toujours, même maintenant. Hein.
C'est peu. Voilà. Alors évidemment, il y a un côté. Il est classé aux États-Unis R. Je pense que c'est important quand même. Parce que.
Il y a du sang partout.
des films d'action. Je pense que les Américains se payaient Fast and Furious, dont on reparlera un peu, ou le Transporteur, qui étaient les trucs qui n'étaient pas très bons, quoi, voilà, qui étaient vraiment faits mal. Et c'est vrai que autant il y a le côté cascade, autant il y a une volonté d'esthétique qui, dès le premier, je trouve qu'il a encore poussé avec les suivants, mais dès le premier, est vraiment impressionnante, quoi.
Ben oui, pour le coup, le jeu des cascades et la mise en scène des cascades, la mise en scène cinématographique est assez ouf et même assez incroyable. C'est d'ailleurs la grande force de toute la saga, du 1 au 4, pour le coup. On aura constamment des efforts autour de la mise en scène et de la mise en visuel des cascades, qui est le point fort, le truc à retenir. Ça est, pour moi, quelque chose qui se met plus rapidement et qui est plus évident, c'est la mise en place de l'univers autour de John Wick à partir du 2, du chapter 2, qui est donc vraiment la question de la grande table, des familles autour de la grande table, de l'historique indirect du continental. L'univers est suggéré dans le premier John Wick, il y a cette histoire du continental, de l'hôtel.
Qui est un truc simple, entre guillemets, dans le côté...
C'est un peu...
C'est un lieu...
C'est droit d'asile, quoi.
C'est Highlander, c'est la terre sacrée, en fait.
Oui, c'est pas faux, oui. Mais c'est vrai que... Et c'est ça, et c'est en ça, pour moi, et là, pour revenir à notre question d'origine, qui est la question de John Wick en tant que franchise et en tant que grande franchise, c'est son univers. C'est finalement cette capacité qu'ils ont eue à... Faut être quand même honnête, hein, le premier film, vu comment il finit, tout aurait pu s'arrêter à la fin du premier film.
Bien sûr. Mais je pense que ça peut être. Je sais pas s'ils l'ont réfléchi dès le début, et c'est peut-être ça la bonne nouvelle en fait. C'est le fait de se dire au départ, on fait un pur film de gangster, de voilà, oui, c'est Hard Boiled de John Woo, c'est à toute épreuve, c'est le syndicat du crime, c'est des espèces de tueurs. Super-héroïque, dans le sens où c'est génial parce qu'il y a parfois quasiment les codes du film super-héros sans que ça en soit, mais ils sont immortels tous. Enfin, c'est un truc, ça presque très vite on comprend que ça va aller très loin en fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté où ça se veut à la fois réaliste et à la fois, normalement, on se dit quand même.
C'est marrant que tu parles du réalisme parce que c'est justement un des trucs qui, moi, au fil de la série, de la franchise, justement, se perd. Un des trucs qui fait que je finis par avoir un peu de mal, beaucoup de mal même avec le 4, qui est dans ce premier film, et dans le deuxième, on a encore, par un moment, la perception de l'extérieur, de la foule, des gens autour, de l'univers. Le 4, il n'y a plus rien autour. Les séquences à Paris sont certes visuellement incroyables.
Non, mais tu dis ça parce qu'il n'y a personne au Sacré-Cœur, quoi.
Mais alors voilà, je travaille pas loin du Sacré-Cœur, je peux vous dire, il y a... C'est pas possible, ça n'existe jamais, il n'y a jamais personne. Le Trocadéro, pareil, le rond-point de l'Arc de Triomphe, mais même pas en rêve, quoi. Et c'est vrai que ça me chiffonne parce que, du coup, là où il y avait un jeu sur un espèce d'univers sous-jacent à la réalité, dans le 2, la mise en place du visuel du côté néo-vintage, 50s, mais avec les meufs tatouées partout qui sont l'administration de la grande table et tout. Il y a tout ce côté-là qui se mettait en place, mais qui était quand même dans, imaginez ça, un peu en sous-couche de notre réel, avec l'apparition du Fisher King,
comment il l'appelle? Évidemment, on était tous en pamoison parce que c'est...
C'était le retour du duo de Matrix.
C'est le Bowery King.
Bowery King, c'est ça. Si tu veux, il y avait un espèce de côté, surtout en plus la manière dont les SDF sont utilisés et réapparaissent dans le paysage, enfin... Justement, ils étaient cette touche de réel qui re-rentrait dans l'univers fantastique. Et le 3 et le 4, c'est dans des directions tellement...
Mais ça veut dire que tu es en train de dire que dans le 2, dans le premier et le deuxième, on pouvait croire que ça pouvait exister à côté de notre monde, en fait.
Ouais, il y avait ce côté semi-réaliste qui était intéressant. Bien sûr, complètement pas réaliste, je sais pas comment le dire, mais ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un des trucs qui se perd. Et c'est un phénomène lié au principe de franchise, souvent, qui est...
Forcément, c'est la surenchère, en fait.
Voilà, cette surenchère, ça voyage plus loin, ça voyage plus longtemps, c'est ça. Mais j'aurais adoré, honnêtement, que quand il monte jusqu'au Sacré-Cœur, pour le duel final, pareil, la mise en scène de ce duel, mon Dieu. Même si elle est belle visuellement.
On va égrader les films tranquillement.
Mais c'est que ça se passe à nouveau avec du monde, qui est un jeu avec la foule, comme il l'avait fait très bien dans... alors, est-ce que c'est dans le 2 ou dans le 3 où on a Marc Dacascos?
Alors, on finit par les mélanger un petit peu, d'ailleurs.
C'est ouais, c'est un peu le problème, oui, c'est dans le 3, je crois. 3 c'est Parabellum, c'est
oui,
ça.
C'est Parabellum, c'est le 3.
Avec... En fait, quand ils sont dans la gare centrale à New York avec Marc Dacascos et qu'ils s'esquivent en se tirant l'un sur l'autre à travers les transports en commun, ça pour moi, c'était terriblement ouf, quoi.
Ce qui est marrant, c'est que le premier suffit à lui-même, alors que dans le 2, on verra, c'est assez fréquent dans les franchises quand ils commencent à durer. Évidemment, quand ils font le 2, ils savent qu'ils vont faire un 3 parce que le 2 se termine et ça va continuer, en fait. Le 2 et le 3 sont une unité en eux-mêmes, même le 4. Le 2 et le 3, c'est l'histoire qui se continue, hein. Ça veut dire qu'il est à la fin du 2, il est excommunié de cet univers qu'on a même cru à un moment que c'était Matrix. Parce que y a c'est pour ça que finalement, dès le premier, la fin du premier, il y a Ian McShane qui est un super personnage tout le long, Winston. Tout le monde s'arrête dans l'espèce de parc où ils sont. Ça rappelait la scène de Freeze dans le Matrix. Il y a plein de gens qui ont fantasmé que John Wick était un univers de Matrix possible.
Un des reboots de la Matrix. Voilà.
Mais après, je pense qu'il y a je trouve que dès le premier, il y a cette histoire de évidemment, c'est un univers qui est à la fois inédit, à la fois qui est pétri de références. On a Sharon qui est joué par Lance Reddick, qui est décédé depuis d'ailleurs, le pauvre, qui fait le gardien de l'hôtel. Donc il y a une imagerie assez mystique, assez catho. Tout un truc avec les Russes dont est issu John Wick. Sur la mafia, enfin il y a les mafias, la mafia russe, la mafia italienne, la mafia il y a tout. Enfin, ce qui est marrant, je trouve assez intéressant, c'est qu'ils ont pris plein d'éléments hyper classiques et ils en ont fait un truc un peu original, alors qui est vraiment dans le... Et donc, dès le deuxième, on commence à se dire, ah ouais, on s'intéresse plus à comment ça marche. C'est peut-être la limite d'ailleurs, parce que la grande table, on envoie des petits bouts et finalement, moi, j'ai un vague souvenir du grand méchant de la grande table dans le désert. C'était un peu décevant, en fait, presque. Du coup, parfois, il y a des montées en tension qui font que la résolution, elle est un peu... Tu dis, bon.
C'est un peu, justement, pour moi, le défaut principal de... C'est marrant, c'est que du coup, John Wick est extrêmement intéressant sur la question de la franchise, justement, parce qu'il va synthétiser en 4 films à la fois le meilleur de ce que peut faire une franchise, une création d'univers, un univers qui est hyper cohérent, qui a une signature visuelle, qui a une signature cinématographique pour le coup, parce que par la continuité des réalisateurs.
Oui, alors et en même temps,
qui va avoir aussi tous ses travers, c'est-à-dire que cette volonté de surenchère systématique. Cette volonté de, en même temps que tu fouilles et que tu obtiens plus d'infos sur l'univers, tu couvres d'autres couches, c'est encore plus compliqué, c'est encore plus étrange, c'est encore plus des fois too much. Et c'est vrai que, à la fin, moi je suis désolé, mais sur le 4, c'est too much. J'adore les séquences, mais elle pourrait être toute seule, sans lien.
Ouais, non, mais... Alors,
ça passe.
Le 4e a fait intervenir la mafia asiatique qui n'était pas intervenue jusque-là. Il y a quand même un truc que je trouve qu'ils ont réussi en tant que franchise, ça veut dire que le deuxième reprend les éléments de qualité du premier et les pousse quand même. Ça veut dire que le deuxième, je trouve beaucoup plus esthétique, beaucoup plus beau à regarder. Alors, pour info, j'ai trouvé ça. Le directeur photo de John Wick 2, qui sera aussi John Wick Parabellum et sur le 4, c'est quand même le mec qui est le directeur de photo de Mimic de Del Toro, du Pacte des Loups, qui a fait du Gantz, qui a fait du...
Tu parles de Dan Lodson ?
Oui, absolument. Oui. Le mec, c'est quand même, il a un très très beau CV, et je trouve la forme de l'eau, il a quand même un level de... Enfin, visuellement, les 2 et le 3, je trouve que
les 4,
ça se perd un peu.
Là, pour le coup, les 4 sont visuellement incroyables.
Voilà.
Le 4 est over the top, pareil, même dans le traitement de la photo, mais il est cohérent avec le reste de la série. On bouffe du néon, du reflet. Comme je dis, le premier John Wick de 2014 pose les bases, la structure tout ça, à partir du 2, on plonge à fond, on n'hésite plus à, de ce point de vue-là graphiquement. Dans le 3, il y a le combat justement dont tu parlais avec Marie Dacascos, là, avec les miroirs, les armures et tout, dans le vert, avec les projections vidéo sur le mur du fond, enfin, des effets d'apparition-disparition qui font l'un et l'autre. Il y a une vraie cohérence graphique, il y a un vrai côté respect. Il y a vraiment quelque chose de la première trilogie Star Wars dans le côté, dans la mise en cohérence du tout, ouais. Dont le premier film jette les bases, mais n'a pas les moyens peut-être d'aller à ce moment-là où se met un peu sur le couloir de peur de peut-être éviter de... On ne sait pas trop. Dès le 2, tu sais que ça marche, tu sais que tu es parti pour en faire plus. Et bah, tu vas plein pot, tu charges, tu fais des effets, tu as plus de trucs.
Il y a le Maroc, il y a dans le 3.
Ouais.
D'ailleurs, pour info, le premier a coûté 20 millions, le deuxième 40, le troisième 75.
Oui. Et donc, le quatrième 90 voilà. Millions.
Donc, il y a quand même un suivi, quelque chose de monter en puissance. Alors, évidemment, sur 4 films, ça commence à être long parce que le côté tueur à gages, c'est un peu court. On n'est pas sur des univers galactiques ou des trucs comme ça. On est quand même sur un petit univers. Il y a un côté, je vais faire un parallèle particulier, mais il y a un côté Harry Potter, ça veut dire ce que tu décrivais, c'est un univers à côté d'un autre qui vit en parallèle où les deux sont censés exister, enfin, à côté d'une autre, et tu es censé croire, est-ce que c'est possible, tu as raison, le petit défaut du 4 peut-être, c'est que tu as du mal à croire qu'il puisse faire ça sans que personne soit au courant, quoi.
Bah, il perd le côté underground, on va dire, avec des gros guillemets, que donnait l'univers pour l'instant jusqu'à ce moment-là. Même l'opus, la partie japonaise, c'est japonais, oui, c'est japonaise.
Osaka, oui.
Ouais, c'est juste pas possible, quoi. Puis le côté, il y avait déjà un côté assez assumé, séquence jeux vidéo à base d'enchaîner les bons mouvements, machin, le plateau. Je vais à la boîte, je récupère le code, je vais ensuite. Ça me gênait pas parce que la mise en scène et la narration collaient avec cette logique et puis mettaient en avant cette construction et permettaient d'amener toutes les séquences de cascades et de combats incroyables. Le 4, ça devient, mais c'est tout, comme si tout est over the top, et c'est un défaut de franchise typique. C'est le sous-marin nucléaire de Fast and Furious 9.
Alors,
c'est cette obligation d'aller encore plus haut, plus loin, plus gros, plus fort, plus bête. Alors, John Wick n'est pas plus bête, il est too much,
oui,
mais enfin,
pas forcément.
Mais c'est marrant, ça, pour moi, elle est extrêmement bien intéressante, mais elle traduit tellement tous les défauts aussi des franchises modernes que c'en est dommage, quoi. Ça aurait pu être un chouïa plus. Enfin, j'ai du mal à pas imaginer ça un peu mieux, quoi.
Après,
surtout, enfin le 4 surtout.
Après le 4 concluait, peut-être qu'il y avait un film, peut-être qu'ils ont traîné sur un film, mais il y a un côté où de toute façon c'était son histoire, il fallait que ça s'arrête. Vous avez eu le jingle, donc il y a du spoil. John Wick semble mourir à la fin du 4. Ça, c'est l'impression qu'on en a, en tout cas.
Oui.
Il fallait que son histoire se conclue quand même, parce que il y a un côté, tout ça, c'est un mec à la retraite qui a perdu l'amour de sa vie et qui se retrouve engrainé, en fait, qui sait faire plus que ça. Alors, moi, je trouve que c'est peut-être ça le petit fil narratif qui manque, c'est John Wick. Il finit par être à un moment le comte lui dit, mais de toute façon, tu sais faire que ça. Enfin, il y a un petit côté. Cette espèce de fatalité, une fois de plus, très, très mystique, j'allais dire biblique, c'est pas le mot. On est plus sur des trucs quasiment mythologiques, voilà, très mythologiques. Mm-hmm. Keanu Reeves, il sait faire. Enfin, c'est sa fatalité, il n'arrive pas à faire autre chose, à chaque fois, ça tourne mal. Bon, il n'a pas de chance non plus, mais à chaque fois, ça tourne mal. Mais ce côté-là est finalement pas assez appuyé, mais ça ne pouvait pas finir autrement, il était obligé de mourir, en fait. Il y a un truc où c'était forcé. Après, le côté, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne change rien à l'organisation. Il ne remet pas en cause l'organisation.
Non, il veut juste, enfin, il voudrait juste, là.
Il veut être tranquille, mais il ne remet pas en cause l'organisation, en fait.
Alors, il défend plutôt l'idée de s'il faudra la remettre en cause, il la remettra en cause s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Il y a un côté, très égocentrique, très cynique, très de l'époque, finalement, dans la conclusion de John Wick, qui dit « Foutez-moi la paix, et s'il faut vous ruiner la gueule pour avoir la paix, je vais vous ruiner la gueule, et je vous montre que j'en ai les moyens. » Par exemple, c'est très intéressant, le début du 4, c'est... alors que jusqu'ici, il était chassé, il était poursuivi, le début du 4, c'est lui qui se met en chasse Il devient à nouveau, comme dans le premier film, un chasseur. Il y a une construction autour de ça, cyclique, du personnage qui finalement n'a été à la retraite, sa retraite n'a finalement été qu'une parenthèse.
Oui.
Voilà. Mais c'est vraiment, comme je dis, il y a vraiment beaucoup, c'est sûrement récemment une des plus originales, déjà, création de franchise, une des mieux écrites,
oui, c'est vrai.
Même si c'est quand même loin d'être parfait, surtout avec le quatrième film.
Bah après, si on fait le parallèle avec Fast and Furious dont on évoquait, alors qu'on est à 10 films hein, quand même, alors qui a démarré plus avant à mon avis.
Oui.
La problématique, c'est que la franchise Fast and Furious, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... c'est des mecs qui font des courses sur les parkings la nuit, quoi.
Oui.
C'est tout. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune... Après, c'est une histoire de famille et de cascade. C'est encore pire dans le côté... ce que tu disais, on va me dire, ouais, mais John Wick, ils prennent des scènes spécifiques, puis après, ils tissent un lien. Ouais, mais le lien, alors, il nous a donné envie de suivre ça, même si le 4, ça tire un peu, parce qu'il y a le côté duel à l'ancienne qui fait à la fois... Tu vois, par exemple, le duel entre le marquis et John Wick, avec cette espèce de truc où il marche 10 pas, il se tire dessus, il marche 20 pas, comme dans Barry Lyndon. Alors on avait évoqué ça.
L'ultra référentiel de cette séquence est ouf. Hein.
Ouais, mais c'est pas ça. C'est qu'ils viennent de passer à peu près 20-25 vraies minutes à monter les escaliers de Montmartre dans une séquence qui tire un peu sur la longueur, c'est vrai.
Mais qui est dantesque, je le reconnais.
Mais qui redescend. Et du coup, il se retrouve. C'est-à-dire que lui, ça fait un moment qu'il a tué tout le monde. Il se retrouve cette espèce de truc old school. Mais en fait, c'est cohérent. Ça veut dire que depuis le début, la grande table et ces machins, c'est des trucs hyper vieillots. Dans beaucoup de choses, c'est très vieillot, quoi. La terre sacrée, faut pas se tirer dessus. Y a ce que tu m'as rendu sur cette idée d'administration qu'on voit moins, en fait, on perd un peu ça dans le dernier parce qu'on se concentre sur John Wick, sur sa fin. Mais ça donne envie, ça continue envie de donner savoir comment ça tourne, comment c'est né, peut-être. Alors, ce qui est un peu l'histoire du Continental. Alors, moi, j'ai pas beaucoup vu la série, j'ai vu un peu le début et c'est très violent. Mais
j'ai commencé tout juste aussi.
Cette idée de Continental, de comment on a créé ce truc-là, ça donne envie de savoir comment c'est mis en place. Effectivement, peut-être qu'il y a un truc à se poser la question en disant, est-ce qu'à un moment ça peut tomber? Est-ce que cette espèce de crime organisé peut tomber? On n'a pas vraiment vu les réunions de la Grande Table, en fait, finalement.
Ben non, mais surtout qu'on comprend bien que c'est... alors, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris, que finalement, c'est juste un écran de fumée, une espèce de pseudo-règle de fonctionnement global, mais qui a... potentiellement une seule personne derrière qui juste ça lui permet de se protéger, quoi.
Tu crois?
C'est un peu comme ça que je l'ai plus ou moins compris.
Moi, j'ai plus vu ça comme soit comme la réunion des familles dans Le Parrain où maman les familles se réunissent pour se mettre d'accord, soit que je me trompe pas, c'est pas Opération Tonnerre, il y a un James Bond où tu vois, il réunit plein de criminels différents, en fait.
Ouais.
Où le Smerch ou le Spectre, alors à l'époque ça s'appelait le Smerch, je crois qu'ils avaient plus les droits, réunit plein de... Puis à un moment il en tue un sur sa chaise, il électrifie une chaise, le méchant avec le chat.
C'est oui. Première, voilà.
C'est ce truc-là, en fait, c'est l'espèce de se dire que le crime organisé est surorganisé.
Et que même s'ils en tuent un, il y en a un autre qui vient derrière.
Voilà, et puis surtout l'espèce de règle, et c'est d'ailleurs intéressant, je trouve que c'est ça, c'est une banalité, mais c'est le côté, il y a des règles, et en fait tout part du fait que le fils russe transgresse les règles. Alors, en fait, il agresse n'importe qui, n'importe comment, et qu'ils sont les mecs qui ne respectent pas le code moral. En fait, c'est des tueurs avec des codes moraux, en fait. Ça donne envie de les voir parce qu'ils ont l'air moraux, en fait. Ce qui est l'antithèse de ce qu'ils sont, parce que John Wick, ça reste un tueur à gages.
Mais c'est pour ça, ça renvoie d'ailleurs, on a parlé de Hard Boiled, mais ça renvoie surtout à une des inspirations avouées de... je vais définitivement écrocher son nom.
Chad de.
Ouais, en ce moment, je suis pas de
Weekend.
Staleski, qui a référence The Killer de John Woo, où on a ce type de code moral pour le tueur
Gage.
Ou syndicat du crime, oui, mais alors encore plus même.
Je crois pas que ce soit Chad ou Kenu. Ils ont jamais caché leur passion du cinéma.
Kenu Reeves, c'est une évidence. Ça fait des années qu'il en parle.
Voilà.
Et d'ailleurs. Je pense que le projet existe aussi parce que justement, il aime ce truc-là et qu'il se donne à fond. Il fait un nombre de ses cascades dans ses quatre films qui est assez dingo.
Ah bah, de toute façon, ça ne marche que sur lui. De la même manière que quand Tom Cruise a repris la franchise Mission Impossible, Alors moi je, oui. moins, je fais moins de parallèles parce que la mission, la franchise Mission Impossible existe depuis 50 ans, enfin c'est une série, c'est un truc déjà connu.
Elle n'est pas créative pour le coup, en voilà. tout cas dans son par arrivée contre, à la, au grand écran, elle n'est pas, c'est voilà. pas une création.
Par contre elle s'est remise à fonctionner que parce que Cruise s'y est investi dedans et on y va parce que c'est du Cruise et là on y allait parce que on voyait déjà, et tu vois bien que c'est lui qui fait majeure partie de trucs. Quoi.
Alors oui, sauf que faut être honnête, c'est pas vendu là-dessus, alors que maintenant les Missions Impossibles sont vendues sur le fait que vous avez vu, c'est Tom Cruise qui fait ça.
Ben oui, non, mais...
c'est un peu embêtant.
Voilà. D'ailleurs, dans le 4, il y a Donnie Yen qui a beaucoup travaillé l'acteur, le tueur aveugle. Alors, ça se discute un petit peu. J'avoue que j'ai eu ma suspension d'incrédulité. Elle a...
Non, c'est... je vois pas pourquoi.
Ça a été compliqué.
Est-ce que c'est too much?
Et il est devenu connu, cet acteur, en faisant Il est une fois en Chine 2, quoi.
Donc, bien sûr, tout, oui, mais pas que.
Bah, en fait, il a bossé avec Yu Wenping, il a bossé avec Tuark, il a bossé beaucoup, enfin voilà, avec Guillermo del Toro sur Blade 2, comme quoi. Avec qui, enfin, voilà, c'est des gens qui font partie du cinéma hongkongais aussi, ou chinois, hongkongais, j'ai un doute.
Hongkongais et chinois.
Ouais, chinois, ouais.
Parce qu'il a participé aux deux. Il tourne depuis 1982. Aussi, il est celui qui a donc réincarné dans une série de 4 films, donc Ip Man.
Le mec, il a 60 balais quand même. Hein.
Ouais, ouais, non, mais il tourne avec Yu Wenping depuis 1994. Donc, oui, t'as raison, c'est dans Il était une fois en Chine 2 qu'il apparaît ouais. pour la première fois.
Pour l'anecdote, Keanu Reeves en a 59, c'est quand même pas mal. Et Keanu Reeves avait fait un. Vous avez fait un 47 Ronin qui a été un four monumental,
ouais.
un des plus gros fours de
sa carrière
et un des plus gros fours voilà. Donc je pense qu'il avait une vraie, ça a été une revanche terrible de lui pour moi, de que ça marche tout d'un coup. Moi je trouve qu'on l'a pas vu arriver, c'est ça qui m'impressionne moi dans
John Wick.
C'est vraiment un truc où.
Mais c'est pour le coup c'est tellement typique de la carrière de Keanu Reeves.
D'ailleurs c'est juste après. D'ailleurs c'est juste après, il a fait L'homme du Tai Chi.
Oui.
Voilà, c'est un moment où il... Matrix était terminé depuis quelques années maintenant.
Oui.
Avant, c'était avant Résurrection. Il a fait Constantine en 2005. Scanner Darkly est déjà un truc un peu spécial.
Mais qui avait une grosse réputation.
Ah oui, c'est pas une adaptation de.
C'est une adaptation d'une des romans grosses nouvelles de Philippe K. Dick, qui est très particulière en plus.
Et après, il a fait Le jour où la Terre s'arrêta, qui a pas marché.
Qui est une merde.
Il a fait des petits trucs, voilà. Il fait les deux films, L'homme du Tai Chi, 47 Ronin, c'est des fours. Et là, il arrive à se relever avec ça. C'est hyper impressionnant quand même. C'est vraiment.
Oui. Très,
voilà.
Il apparaît dans The Neon Demon de Vindin Refn. Oh, putain, j'ai tellement ouais, pas ouais, le ouais. truc en ce moment avec les noms. Derrière, il enchaîne John Wick 2. De toute façon, il est. Comment dire, toute sa filmo, c'est un coup ça passe, un coup ça passe pas, un coup ça passe, un coup ça passe pas. Un coup c'est un film arty, un coup c'est un film qui veut une plus grosse prod mais qui prend un four de ouf, quoi.
C'est étonnant. Le premier coup de sa réussite, on y allait aussi pour ça, quoi. Il y a un côté où c'est lui qui était intéressant, quoi.
Ah bah, assez paradoxalement, je suis d'accord avec toi. Quand John Wick apparaît et que j'ai vu la bande-annonce et que j'ai vu Keanu Reeves avec un flingue en train de faire du l'aïkido avec les flingues à la main, j'ai fait « Ouh, là ça me plaît, là je vais voir, quoi. Je vais voir. » Et il y avait un truc... En plus, il y avait eu très peu, enfin, personne n'en avait spécialement parlé. C'est un projet qui s'est monté donc vraiment avec rien. Pourquoi imaginer que dans les productrices à l'époque, il y avait Eva Longoria sur Matrix, sur le premier John Wick. Donc,
Apparaît... Ah oui, oui. Ouais.
Faut quand même imaginer du coup que.
Il a quand même un cas.
Il a
réseau.
Gratté un peu les fonds de tiroir, entre guillemets, sans méchanceté, pour arriver à monter le film. Donc,
après, c'est sur 20 millions, tu montais un film sur Keanu Reeves sur 20 millions, c'était faisable.
Ouais, c'est même pas... un petit budget, même pour lui à l'époque.
Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, tu peux. Voilà, après, il s'attendait pas à ce que ça rapporte autant et qu'ils amortent tout ça. Mais effectivement, il porte la franchise. Alors après, comme tu dis, la franchise, je trouve que, tu vois, on évoque le fait d'avoir créé un univers qui a été très intéressant dans le premier, dans le 2, dans le 3. Dans le 4, on s'est un peu concentré, on a un peu, je trouve, délaissé ça. L'exemple type, c'est que le beau Harry King, il mérite à lui un... C'est ça que je trouve intéressant. Il mérite à lui... Chaque personnage mérite presque une histoire, on a envie de raconter le, voilà, le personnage du chef des ZF joué par Laurence Fishburne, t'as envie de savoir ce qui se passe. Winston, t'as envie de savoir.
Alors Winston, c'est la série The Continental.
Voilà. Mais du coup, quand t'as un univers comme ça où chaque personnage donne envie de savoir, de creuser un peu leur parcours, parce qu'ils sont bien faits, c'est peut-être un peu ce qu'ils ont lâché. Alors après, ouais, je pense que.
Bah c'est là où le 4, justement, ouais, mais tu vas dire la même chose.
Je n'ai pas allé vraiment où il fait. Enfin. En tout cas, c'est l'histoire de. Il fallait finir l'histoire de Wick, en fait. Je pense que c'est ça. Il fallait finir l'histoire de Wick, de son duel contre les institutions, contre tout. Et en fait, il ne pouvait que mourir.
Pour son indépendance et sa rédemption, on va dire.
Je refais un tout petit parallèle pour dire du mal de Fast and Furious parce que ça m'occupe. Ils ont fait une franchise, je crois, avec deux personnages, machin et Hobbs.
Ah, bonne show.
Bon. Moi j'en ai vu trois, je n'avais aucune envie de savoir qui était qui que ce soit, j'ai pas compris, tellement c'est creux, ça donne aucune envie de savoir qui est qui quoi là-dedans. Alors que là, oui, j'ai envie qu'il y a un côté. Alors ils ont choisi de faire ballerina avec l'espèce de ballerine dans les Russes. Mm-hmm. Pourquoi ? Bon. À la limite, tu vois, une fois de plus, ils arrivent à partir sur un truc où c'est pas ça qu'on attendait peut-être. C'est une bonne idée. Après, c'est encore une histoire de vengeance, a priori. Bon, alors.
Bon, de toute façon, tu as bien soulevé un des points qui me chiffonne par rapport au 4, c'est justement quand tu arrives à la fin du 3 avec tous les personnages, que ce soit joué par Fishburne, par Ian McShane, et que dans ton quatrième film, tu les invisibilises quasi complètement. Tu perds la dynamique que tu as avec ce trio de personnages qui s'opposaient indirectement ou qui utilisaient John Wick pour s'opposer à la grande table. Je dois avouer que j'ai un petit peu... je trouve vraiment, même si on l'a dit, répété la logique du too much, c'est pareil, il y a ce gâchis systématique, entre guillemets, d'aller toujours plus haut, plus loin, plus fort, et de rajouter une couche. Et pour rajouter cette couche, plutôt que de te donner finalement à manger à partir des personnages existants, ils te rajoutent des nouveaux personnages, des nouvelles choses. Quand on va au Japon, on découvre un nouveau personnage qui est joué aussi par un autre acteur absolument asiatique, hyper connu, mais dont le nom m'échappe, celui qui est le responsable de l'équivalent du Continental, Hiroyuki Sanada, qu'on a vu partout. Et tu vois, il y a plein de choses qui, pour moi, qu'auraient pu, sans aller aussi loin, sans aller dans ce too much absolu qui est les dernières 40 minutes du 4, faire que la franchise aurait été plus cohérente et aurait même, honnêtement, leur aurait potentiellement offert des portes d'ouverture ou des portes de sortie ou des ouvertures bien plus nettes. Si tu veux, c'est y a un côté... Il y a un côté, on en a parlé dans l'épisode d'avant, King Kong, où au bout d'un moment, de toute façon, le titre te donne déjà de ce qui va être dedans, on en rajoute une couche et encore une couche et encore une couche, et on n'obtient plus rien. En quatre films, le parcours de la franchise de John Wick ne va pas jusqu'aussi loin que les conneries des cinq films de Godzilla, mais Godzilla américain, je précise. Mais on a quand même énormément on est déjà dans le too much.
Mais est-ce qu'on n'a pas les excès de franchises qui sont propres, par exemple, aux franchises d'horreur, en fait ?
Alors, franchise
d'horreur, est-ce que c'est pas une espèce de surenchère systématique ? Là où, par exemple, tu vois, je prends des franchises alors d'autres époques, puis alors après, aujourd'hui, on a tendance à les ressusciter à tort ou à travers. Je prends Indiana Jones. C'était plus ou moins, il y avait moins cette côté surenchère dans Indiana Jones, qui était juste de retrouver les personnages que tu aimais bien dans une nouvelle aventure, souvent un peu plus élevée que la précédente, mais voilà, là où par contre, systématiquement, les franchises d'horreur vont dans la surenchère, parce que c'est le but.
Oui, mais, je mets un mais, la question de la franchise d'horreur, c'est quasi historique dans l'histoire du slasher, particulièrement, puisque c'est surtout eux qui génèrent des suites à gogo, il y a une surenchère souvent sur le nombre de morts ou la manière de les tuer, mais il y a structurellement quelque chose qui est à respecter. Mmh. À l'inverse, là, dans les John Wick,
on explore plus un monde quand même.
Voilà, il y a un côté exploratoire, il y a un côté pour le coup vraiment jeu vidéo,
oui,
et retournement de la situation, comme je dis, par rapport au 4, où finalement il redevient un chasseur là où il était la cible à partir du 2. y a une construction un poil moins systémique que ne l'est par défaut la franchise d'horreur. La franchise d'horreur, t'as la Final Girl ou t'as la Fatal Girl, celle qui va être qui est maintenant une récurrence plus récente avec les reboots et les prolongations avec Jamie Lee Curtis, qui n'est plus que qui est autre chose qu'une simple Final Girl. Tu vois, il y a une construction comme ça, même dans l'évolution actuelle des slashers et des reprises d'horreur comme ça, où on a une construction, mais il y a une nécessité, je mets des gros guillemets, systémique à la construction de ces films, qui fait que c'est pas quelque chose que je retrouve dans John Wick. Du rap, à la limite, on est plus près d'un Fast, on est plus près d'un Mission Impossible pour moi. Enfin, quoique même Mission Impossible, il y a un côté systémique par le côté histoire.
Ouais, mais ça, alors.
Ça serait peut-être plus proche que d'un truc type Le Seigneur des Anneaux, tu vois, pratiquement.
Oui, c'est.
Où il y a une espèce de vide, continuité de l'histoire, mais sans vraiment être sûr de savoir ce qu'ils vont raconter, ce qui peut être embêtant.
C'est marrant, c'est qu'on se demandait pourquoi ça cartonne autant, parce que le dernier marche très bien.
Ah, très, très, très bien.
Voilà. Faut se rappeler que les franchises qu'on a quand même, Mission Impossible avait une certaine qualité, mais on a eu des franchises récentes, je parle des années 2000, je suis en train de chercher 2010, c'est plus rare, mais on a eu Resident Evil. Alors, effectivement, ça explore le monde. Alors là, après, comment dire ? Moi, je ne les ai pas vus, donc je ne m'avancerai pas là-dedans, mais je ne suis pas sûr que ce soit très cohérent.
C'est ceux de Wes Anderson ?
Oui.
Avec Mila Jovovich ?
C'est cohérent ?
Est-ce qu'on peut parler de cohérence déjà avec ce réalisateur ?
Je vous renvoie aussi une vidéo du Fossoyeur qui aime ça un petit peu de manière louche, mais voilà. On a eu Transformers, c'est pareil.
Alors, oui, là, pour le coup, on ne peut ne pas aimer, mais tu ne peux pas nier la cohérence.
C'est cher aussi.
Oui, mais dès le départ, c'est too much. C'est, je veux dire, on est... si tu préfères, sur Transformers, j'aime pas. C'est pas la question. Mais le truc est cohérent de A à Z. Ils passent leur temps à s'auto-rebooter, voire à se redconner, mais c'est toujours... Alors là aussi, on est quasi... Là, on est vraiment...
C'est médiéval, un truc où c'est des bêtes, en fait.
Il y a un vrai, vrai truc, quoi. À la limite, la franchise... qui pourrait se ressembler le plus dans la logique, ce serait plutôt Mad Max.
Oui.
La construction, surtout à partir de Mad Max 2, Au-delà du tonnerre, Fury Road et Furiosa, il y a un peu cette continuité, cette forme de continuité de l'univers, d'expansion, d'exploration, mais là, avec quand même un peu de talent en moins sur l'écriture.
Oui. Non, mais sinon, tu as Rocky, par exemple.
Ouais. Ouais, ouais, ça peut être. Il pourrait y avoir.
C'était là de retrouver le personnage. Alors, c'est un univers qui n'a pas besoin d'être expliqué. C'est pas un univers inventé, ouais. Rocky. Mais c'est ça aussi la force, quand même, de. Même par rapport à d'autres. Même Fast, il n'y a pas d'univers, en fait. Ce que je disais, je me moquais, mais à la fois.
Ça finit par être un univers autonome, tellement c'est n'importe quoi. Mais,
Ouais, enfin, il n'y a pas d'univers comme. Même Saw, c'est des trucs. Voilà, je trouve fort, c'est ça qu'on n'a pas vu souvent. C'est vraiment cette création d'univers quasiment ce que je disais à la Harry Potter, à certains trucs où tout d'un coup il y a un univers à part, quoi. Il y a quelque chose et c'est je trouve qu'on n'a pas vu ça beaucoup, des créations d'univers. Alors anecdotique, c'est ni le Seigneur des Anneaux qui est une franchise littéraire en fait, donc la question elle se pose différemment. Mais il y a tout un univers créé que même Mission Impossible n'a pas. Il y a l'univers professionnel de Mission Impossible. Je trouve pas le terme. Ah !
Là, si je ne vais pas t'aider, je sais pas où tu vas.
Mais si, là où il travaille, la conception des méchants et des gentils dans Mission Impossible, l'INF, oui. Tout ça, c'est léger, c'est de l'espionnage bateau. Là, on va me dire que c'est des tueurs en série, c'est des tueurs à gages bateau, mais à la fois, j'ai pas souvenir de voir des tueurs à gages comme ça avec un univers aussi construit. C'est très rigolo, quoi. Il y a un côté très marrant et c'est ça qui est très novateur, je trouve, dans cette franchise-là, quoi.
Ouais, non, mais c'est. Il y a. Certes, il y a une innovation, mais dans une forme quand même. L'innovation, c'est l'univers qui est autour. Pas nécessairement les personnages en eux-mêmes sont alors non correction le personnage principal est une figure est une figure archétypale très réussie, mais archétypale
clairement.
À l'inverse, l'univers renvoie beaucoup plus des fois à des univers de jeux de rôle qu'on a eu plus récemment, ou des choses comme ça, et ça le rend extrêmement intéressant. Et Et c'est
pour... ça me fait penser à un jeu de rôle de vampire qui t'a la mascarade.
Vampire, c'est bien ce qu'on a dans les deux premiers films. Il y a cet esprit justement avec cette imprégnation, comme je disais, ce côté underground. Il y a un côté le vampire la mascarade qu'on perd quasi définitivement avec la fin du 3 et qu'on perd complètement dans le 4 parce que
il n'y a pas
d'extérieur. Il y a pas d'extérieur à son univers.
T'as l'impression qu'ils sont tout seuls là.
Bah oui, mais donc, enfin. C'est pas cohérent, même à minuit, enfin il y a des endroits, enfin je sais pas pour d'autres, mais moi c'est clair que tout ce qui se passe à Paris, ça me sort du film parce que il y a trop de choses qui sont pas cohérentes. C'est comme les publicités pour les voitures où tu vois jamais de trafic. Bah faut arrêter de rêver, ça n'existe pas, il y a toujours un trafic, votre voiture elle va jamais rouler comme ça, il y aura toujours d'autres voitures. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup de mal avec le quatrième, parce que finalement, même s'il me sert du contenu de fond sur le contenu direct du film, bah je trouve décevant. Et comme je dis, c'est un pur paradoxe parce qu'au final, je retrouve le parcours d'une franchise moderne assez classique, assez normale, typiquement le parcours qu'on aura sur un Terminator.
Tu vois. Ou là, c'est parti.
Un et deux et trois, et puis ce qui n'existe pas derrière.
Après, c'est parti trop.
Voilà, c'est un petit peu ce côté-là. Sauf eux, pour l'instant, en quatre films, c'est bien. C'est propre, c'est cohérent, on finit. J'ai un peu peur, justement, puisque j'évoque Terminator, du syndrome Terminator où après le 3, on a Renaissance, Genesis, Dark Fate. Enfin,
c'est un peu n'importe quoi. Après, je pense qu'il y a. Je pense que ce qui a sauvé cette franchise-là, c'est l'enracinement dans les références du cinéma hongkongais. Tu vois, j'avais zappé, moi je ne l'ai pas vu, les séquences à Paris. Sur Wikipédia, ils te disent que c'est inspiré du film Les Garés de la Nuit.
Ouais.
De 79. Donc c'est les mecs qui... Et en fait, je pense que c'est là-dessus que je n'ai pas fini, mais presque. Pour moi, on sent... dans le travail de Reeves et de ses co-réalisateurs, une espèce de sincérité. C'est-à-dire que les mecs, ça les éclate. Ils ont vraiment... Il n'y a pas le... Je trouve qu'on... Bizarrement, notre John Wick, alors qu'on sait ce qu'est l'industrie du cinéma aujourd'hui, pour moi, je ne ressens pas le côté putassier d'un Fast and Furious de...
Ah, mais...
Et le truc, tu sens qu'ils aiment ce qu'ils font. Alors évidemment, peut-être qu'ils tirent un peu sur la corde. Ok, oui.
Il
n'y
a pas le côté putassier d'un Fast and Furious, ni le côté mercantile de chez Marvel.
Voilà. Et donc il y a un truc où, bah alors effectivement ils refont. Faut voir. Je pense que et on en revient à l'espace entre chaque film qui prouve qu'ils ont pris le temps de faire les choses en fait. Il y a eu un temps de création et de voilà. Alors effectivement là le 4 ils sont arrivés au bout du truc. Faut que ça s'arrête. Et comment tu renouvelles une franchise comme ça? Est-ce que c'est possible? Ça va pas être évident.
Alors je te conseille vraiment de jeter un œil à la série Le Continental. Qui est vraiment sympa.
J'ai même vu, il y a Mel Gibson dedans.
Oui.
Je pensais que Mel Gibson ne travaillait plus, moi.
Alors, il est assez étonnant dans ce film, d'ailleurs, un jour on reparlera de Mel Gibson, en bien Oula. Ou en mal, en bien, ou en bien et en mal. C'est vrai que et je trouve que ce qu'ils ont fait avec le Continental, c'est très malin. Ça étend l'univers, ça étend l'historique. C'est ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que quand je vois qu'il y a un projet John Wick 5... Oui, mais c'est, tu vois, la préquelle du Seigneur des Anneaux qui est sur Amazon...
Les Anneaux de Pouvoir,
bah, c'est beau, putain, en plus, c'est super beau, mais qu'est-ce que ça raconte? Rien!
Il faudrait qu'on en parle un jour, mais c'est...
Mais voilà,
moi, j'ai eu besoin de chercher des trucs pour tout comprendre, parce que le rythme est un peu particulier.
Ouais, les préquelles de Harry Potter que sont les Animaux Fantastiques... Oh, mais qu'est-ce qu'on n'y comprend rien, sans parler des horribles problèmes de production. Mais qu'est-ce qu'on n'y comprend rien, qu'on n'en a rien à foutre, quoi. C'est une catastrophe. Et c'est pour ça que c'est un exercice difficile. Ils ont changé de format, ce qui, à mon avis, pour le coup, n'était pas une mauvaise idée. Le casting est très réussi. Ça vaut le coup d'œil. Si l'univers t'accroche, le Continental va t'accrocher. C'est en ça qu'après, continuer à annoncer un John Wick 5, alors, qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans? Et ou un ballerina, parce que c'est pas très clair.
Je suis plus intéressé par ballerina qui part sur autre chose. Faut voir si
les bonnes franchises elles savent s'arrêter. Pour moi.
Je sais pas ce qu'il lui a. Enfin, je vois pas parce qu'on l'a pas beaucoup vu cette nana. Enfin, moi j'avais aucun souvenir. À la limite, il m'aurait annoncé une franchise sur le personnage d'Aléberry. J'aurais trouvé ça plus logique en fait.
Ouais, ou sur le Fisher King, même si je sais que c'est pas son nom.
Oui, le Boeri King, là, voilà.
Le Boeri King. Mais voilà, et on en revient toujours à ça. Ils ont... Je sais pas quelle angle ils prennent, alors... Ça peut être intéressant, comme au final, ils vont peut-être continuer de creuser le travers de toute franchise. Mais elle est super intéressante, globalement, la franchise, parce qu'elle est vraiment le reflet, pour le coup, de notre époque. Quand c'est réussi, on va être clair. Hein.
On va voir. Après, ça a été repoussé déjà.
Ouais, j'ai vu un article comme quoi ils repoussaient déjà au moins d'un an le tournage.
C'est compliqué, donc bon, on va voir. Donc, si comme moi, vous avez aimé retrouver 4 fois de suite l'increvable, parce qu'il faut dire qu'il est increvable, on n'est pas rentré dans les détails des scènes, mais c'est ouf, l'increvable Keanu Reeves, au mieux de sa coolitude, parce que voilà, il n'y a pas d'autre mot sur John Wick, et que vous êtes quand même.
Keanu Reeves est toujours cool.
Très curieux de voir ce que ça va donner la suite, et ben, votez pour moi.
Si comme moi, vous pensez qu'il ne faut pas que ça continue. Qu'une bonne franchise doit savoir s'arrêter et que John Wick doit s'arrêter à son chapitre 4, votez pour moi. Mmh. On vous fera un maximum de retours possible. N'hésitez pas à venir nous parler plutôt sur Masto, voire sur Instagram.
Sur Instagram ou sur. Moi, je suis sur Blue Sky.
Et Laurent est sur Blue Sky. Il me retransmettra les messages. Voilà. N'hésitez pas.
Laurent, où c'est sur Blue Sky, je crois que c'est ça que ça marche.
Voilà. On espère que vous êtes content de nous avoir réentendu.
Exactement.
De savoir qu'on n'est pas mort.
On va essayer de revenir plus régulièrement. Là, ça y est, c'est définitif. On a déjà plusieurs épisodes. Après, il faut retrouver des sujets. C'est parfois difficile, mais voilà. Comme on a laissé un peu de temps passer, je pense qu'il y a plein de choses à raconter maintenant sur des nouvelles choses. Voilà. Peut-être qu'on fera de temps en temps des retours aussi sur épisodes, parce qu'il y a des choses qui sortent. On avait parlé de.
Des continuités.
Des continuités. On avait parlé. Godzilla, il y a eu un nouveau qui est sorti qui mériterait d'être vu. Je me demande si on va pas faire aussi un jour, tiens d'ailleurs, quelque chose sur Pixar pour changer un peu, qu'on avait déjà fait.
Et puis on parlait aussi d'un réalisateur, un de ces quatre aussi, tout spécifique, comme on avait fait pour d'autres.
Voilà. Donc vous nous retrouvez, le site c'est toujours www.thebrocklash.fr.
Oui.
Voilà. Bah, venez voter, et puis venez commenter, n'hésitez pas. Et puis à une prochaine.
Ciao, ciao, ciao.
Tu es prêt, John?
Oui.